France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
La mécanique quantique distingue deux types de particules élémentaires, les fermions et les bosons. On a longtemps cru qu'il n'y avait rien au-delà de ces deux catégories. L'hypothèse des paraparticules pourrait-elle enrichir le paysage théorique de la physique ? Dans le monde tridimensionnel que nous connaissons, chaque particule fondamentale de l'univers est classée dans l'un de ces deux groupes. Il existe une exception, les anions. Mais est-ce qu'un nouveau type de particules élémentaires pourrait exister dans la nature, à savoir les paraparticules ? L'hypothèse est formulée dès les années 50. Elle a suscité un vif intérêt mathématique avant d'être considérée comme physiquement impossible. Aujourd'hui, l'idée revient sur le devant de la scène. Bien qu'hypothétique, les paraparticules nourrissent l'espoir d'ouvrir la voie à des états exotiques de la matière. Paraparticules, pour un oui ou pour un non. Préden Rouleau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CEA, directeur du groupe de nanoélectronique au service de physique de l'état condensé au CEA Saclay. Et nous sommes en ligne avec Thierry Jolicoeur, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS en physique théorique de matière condensée, membre de l'Institut de physique théorique CEA-CNRS. Merci à vous deux d'avoir accepté cette demande d'interview, d'être là avec nous en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky, sur notre compte @sciencesqfd. Alors qu'est-ce qu'une particule, une quasi-particule et une paraparticule ? Quels sont leurs caractéristiques et pourquoi, d'une manière générale, ce champ d'études est-il si complexe ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Et on commence par la question fondamentale, de quoi la matière est-elle constituée ? C'est notre archive du jour, nous sommes en 1962.
Chaque jour, la connaissance de l'atome, la connaissance de la matière nous apporte des surprises nouvelles, des éléments d'émerveillement nouveaux, mais aussi des éléments d'expectative également nouveaux. Nous avons à plusieurs reprises expliqué ici comment, plus petit que l'atome, existait une vie de la matière et que cette vie de la matière se situait pour l'instant, enfin dans l'esprit des chercheurs, à un échelon presque ultime qui était la particule élémentaire, élémentaire comme son nom l'indique. Or, tout récemment, on vient de découvrir quelque chose que l'on pense être de nouvelles particules élémentaires. C'est bien ça, Charles-Noël Martin ?
Oui. Le tableau, vraiment, des particules que l'on pensait être élémentaires, car il faut maintenant mettre ça au passé. Ce tableau comportait une trentaine de particules d'objets très fugaces, d'origine nucléaire, c'est-à-dire ayant leur siège dans l'atome, et non seulement dans l'atome, mais encore dans ce que l'atome a de plus petit en lui, ce centre, ce soleil, en quelque sorte, du fameux système planétaire qu'est un atome, de particules soit stables, le proton, le neutron, l'électron, soit instables, les mésons. Tout le monde a entendu parler plus ou moins maintenant des mésons. Mais les théoriciens ont souvent pensé, depuis déjà longtemps, que ce tableau n'était pas définitif et qu'il devait y en avoir d'autres. On est parvenu effectivement, à la suite des grandes expériences qui ont été menées dans les principaux laboratoires du monde, et vous le savez, à partir d'accélérateurs de particules géants, d'appareils qui ont des kilomètres maintenant de tour, celui du CERN, celui de Brookhaven. Ce tableau vient de s'enrichir. Ce sont des particules d'ordre nucléaire qui vivent un 100 millième de milliardième de milliardième de seconde. Ceci ne nous dit absolument rien à l'esprit. Je vous aurais dit 1 millionième ou 1 milliardième de seconde, ça nous paraît déjà d'une brièveté absolument déconcertante.
Voilà un extrait de l'émission Page des sciences diffusée sur la RTF en 1962. Préden Rouleau, voilà, on sait que l'atome n'est plus la première brique élémentaire puisqu'ils sont eux-mêmes faits de particules plus fondamentales, ce qu'on entendait dans cette archive.
Oui, alors c'est vrai que le modèle standard décrit en quelque sorte les particules élémentaires et leurs interactions. Donc on peut parler des quarks, des leptons, des bosons de jauge. Le boson de Higgs, par exemple, et qui interagissent via trois forces électromagnétiques faibles et fortes. En quelque sorte, nous, dans notre laboratoire, on travaille essentiellement sur les électrons et les interactions entre électrons.
Thierry Jolicoeur, quelle est votre oreille sur cette archive, votre écoute contemporaine sur cette découverte de nouvelles particules élémentaires qui fait monter leur nombre de 30 à 33?
Oui, alors je ne jurerais pas que ces nombres, même à ce moment-là, étaient bien ceux-ci. Hein, ça, je n'en suis pas du tout certain. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un moment où on a réalisé que les constituants du noyau, à savoir les neutrons et les protons, étaient des objets qui n'étaient pas élémentaires et qui avaient des entités plus petites à l'intérieur des protons et des neutrons. Et ces particules qui sont plus élémentaires, donc c'est ce qu'on a appelé les quarks dans les années 60. Voilà.
Alors ces quarks, en effet, dans les années 60, qui composent les protons et les neutrons, qui sont au cœur de ce tableau, hein, ce modèle standard de la physique des particules, c'est un peu comme un tableau des composants fondamentaux de la matière et des forces qu'elle subit. Thierry Jolicoeur, dans ce modèle standard, les briques qui fondamentales qui constituent la matière ne sont pas très bien définies. Enfin, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'elles sont des particules quantiques, des champs quantiques ou une combinaison des deux? En tout cas, une particule, quand on dit ça, faut pas imaginer des petites billes miniatures.
Non, alors ça c'est vrai, hein. Ça c'est vrai que il faut pas prendre les idées du monde de tous les jours dans laquelle on vit et imaginer que c'est directement la transposition de ces idées qui va être valide dans le monde microscopique pour des distances arbitrairement petites. Ça, il n'y a pas de raison que ça soit vrai et ça n'est pas vrai. Donc la vraie réponse, mais qui est un petit peu abstraite, est de dire que c'est des champs quantiques qui décrivent la matière. On a tendance à les appeler élémentaires parce que ces champs ont des excitations élémentaires et on les appelle des particules élémentaires. Mais ça, c'est un petit peu déjà une image très partielle de la réalité. Voilà. Prénom. Alors après, on en a une liste exhaustive et on connaît les forces entre ces champs quantiques. Donc on va dire les forces entre ces particules. C'est ce que disait Prédène tout à l'heure rapidement. On connaît l'inventaire des particules qui sont élémentaires au moins jusqu'à aujourd'hui et des forces entre elles. C'est ça qui est le modèle standard.
Prédène Rouleau.
Alors, c'est vrai que moi, si je peux me ramener à quelque chose que je connais bien, qui sont les anions. Donc, les anions, c'est on considère un certain nombre d'électrons qui sont dans un gaz bidimensionnel. Et lorsque on prend en compte les interactions entre ces électrons, il y a un nouvel état qui émerge et qui peut porter, par exemple, une charge fractionnaire. Donc, faut pas s'imaginer que la charge a été coupée en deux, en trois, par exemple. Mais il faut vraiment s'imaginer que l'excitation de cet état, en quelque sorte, de cette quasi-particule, qui est une sorte d'état collectif, porte une charge fractionnaire que l'on peut mesurer dans nos laboratoires. Donc c'est ce qu'on fait.
Voilà, les anions qui ne sont pas des particules fondamentales comme des électrons, des photons, mais des quasi-particules.
Exactement.
Donc, et on reviendra sur cette catégorie-là, sur ces bestioles-là. Mais d'abord, Thierry Jolicoeur, qu'est-ce que la matière dite condensée, qu'a-t-elle de si particulier? Quelle différence finalement entre physique de la matière condensée et physique des particules?
Bah, la physique de la matière condensée, quand on dit ça, ça veut dire qu'on s'intéresse à la physique d'une énorme quantité de matière. Donc c'est le côté macroscopique versus le côté microscopique. La physique des particules élémentaires, elle va décortiquer les propriétés des particules jusqu'à les diviser de la manière la plus fine possible et à les regarder, on va dire, une par une. La physique de la matière condensée, elle s'occupe d'énormes assemblées de matière. Et dans cette matière, il n'y a plus que les particules stables, en fait, qui sont présentes. Donc, à savoir les électrons, les protons et les neutrons. Ça suffit pour décrire la physique de la matière condensée. Il y a d'autres particules élémentaires, mais en fait, elles ne jouent pas de rôle dans la physique de la matière condensée. La physique de la matière condensée, c'est celle avec lesquelles on fabrique tout ce qu'on connaît dans la vie courante. On fabrique tous les composants électroniques, on fabrique tous les circuits dans lesquels passe de l'électricité, tout ce genre de choses.
Oui, c'est qu'à cette échelle-là, à l'échelle de la physique de la matière condensée, à cette échelle mésoscopique, donc aux limites du monde macroscopique et celle du monde nanométrique, dans certaines conditions, Thierry Jolicoeur, on observe des phénomènes dus au comportement collectif de particules.
Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Il faut bien voir qu'il y a eu, pendant très longtemps, le point de vue était que si vous découpez la matière en constituants de plus en plus petits, donc tant que vous y arrivez, eh bien, vous obtenez des composants plus élémentaires et du coup vous divisez la charge électrique, par exemple, entre ces composants. Donc c'est typiquement ce qui arrive avec le, si on prend le proton ou le neutron, dont on sait que ce ne sont pas des particules élémentaires. Dedans, on sait qu'il y a des quarks, il y en a même trois, et on sait que leur charge, c'est un tiers de la charge totale du proton, par exemple, qui a une charge positive, opposée à celle de l'électron. Et on est habitué, disons, l'image naïve qui se trouve être vraie, là, dans le cas de cette physique des particules, c'est que si vous arrivez à regarder les constituants élémentaires, eh ben, vous allez trouver qu'ils ont une partie de la charge du tout. Donc, c'est une idée simple à laquelle on s'attend vraiment et qui se trouve être vraie. Alors, dans la physique de la matière condensée, on s'est rendu compte, mais alors complètement par surprise, donc dans les années 80, pour le coup, ça a été une surprise conceptuelle totale, qu'en fait, il y a aussi le phénomène inverse qui est vrai. C'est-à-dire que dans la matière condensée, donc des assemblées avec des nombres monstrueux d'électrons, protons et neutrons, des objets macroscopiques qui conduisent l'électricité, eh bien, vous pouvez voir expérimentalement des propriétés électroniques dans lesquelles apparaissent des fractions de la charge de l'électron ou du proton. Ce qui semble complètement invraisemblable, puisque si vous voulez voir une fraction de la charge de l'électron, naïvement, vous allez dire, bah, il faut que je le découpe en morceaux, il n'y a rien à faire. Eh bien, en fait, non. En fait, non, ce n'est pas ça qui se passe. Et ça a été, donc ça, c'est une découverte expérimentale du début des années 80, qui s'appelle l'effet Hall quantique fractionnaire. Ça, Prenen va nous raconter en long, en large et en travers de quoi il s'agit. Enfin, j'espère. En tout cas, dans ce phénomène-là, eh bien, vous avez le phénomène, en quelque sorte, inverse de l'élémentarité. Vous fabriquez des entités qui ont pourtant une charge plus petite que celle des constituants.
Prenen Rouleau.
Alors oui, effectivement, la mesure de la charge fractionnaire a été réalisée pour la première fois dans notre laboratoire. Moi, j'y étais pas, j'étais un peu jeune, par Christian Glatly et puis son équipe. Donc, en utilisant un outil qui est la mesure des fluctuations du courant. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est lorsqu'on mesure les fluctuations du courant, c'est-à-dire en quelque sorte le bruit, on a des informations sur la valeur de la charge. Donc ça, c'est une mesure fondamentale. Landauer disait que le bruit était le signal. Et en mesurant donc ces fluctuations de courant, Christian Glatly et son équipe ont extrait pour la première fois une charge fractionnaire 2 sur 3. Voilà. Donc ça a donné lieu à un certain nombre d'expériences de mesures de bruit dans d'autres laboratoires, par exemple au Weissmann, dans l'équipe du professeur Mottier et Blum. Et en quelque sorte, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans ces gaz bidimensionnels d'électrons, qui sont soumis à des champs magnétiques très forts, hein, on a besoin d'une dizaine de Tesla typiquement, on peut mesurer des charges fractionnaires E sur 3, E sur 5. C'est quelque chose qu'on fait avec mon équipe actuellement. Donc on aura peut-être l'occasion d'en discuter par la suite.
Tout à fait, puisqu'on parlera des expérimentations. Mais pour revenir justement sur les fondamentaux, pour comprendre, on va évidemment venir à cette étude sur les paraparticules. Mais d'abord, Thierry Jolicoeur, on évoque souvent des approches statistiques en mécanique quantique pour étudier ces particules. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de statistique ?
Alors la statistique, en fait, elle réfère au comportement d'assemblée de particules. Et là, il y a ces fameuses deux catégories, les bosons et les fermions, où, à gros traits, on va dire que les bosons, vous pouvez tous les mettre, je vais dire, dans la même boîte, ce qui veut dire, en fait, dans le même état quantique, quel que soit précisément ce que veut dire l'état quantique, tandis que les fermions n'aiment pas du tout ça, et eux, il n'est pas question d'en mettre plus qu'un par boîte, autrement dit, pas plus qu'un dans un état quantique donné. Et on sait que les particules élémentaires, eh bien, elles se classent strictement selon cette dichotomie boson versus fermion. Et ça a un impact énorme sur les propriétés de grandes assemblées de ces bosons et de ces fermions, qui se trouvent ne pas du tout avoir les mêmes propriétés. La stabilité ultime de la matière, on va dire, pourquoi quand on est assis sur une chaise, celle-là, elle ne s'écroule pas, c'est vraiment parce que eh bien, les électrons, les protons et les neutrons sont des fermions. Il n'est pas question de tout mettre en gros, de tout aplatir comme une crêpe et de tout mettre dans le même état quantique. Il y a une résistance fermionique de la matière qui est vraiment due à cette notion de statistique. Donc c'est ça vraiment qu'on appelle la statistique. Alors pourquoi il n'y a que deux statistiques quand on dit ça? Donc c'est vrai pour les particules élémentaires, mais ça c'est vrai parce qu'elles se déplacent, dans l'espace tridimensionnel. Elles peuvent aller en haut, en bas, à droite, à gauche. Et puis, on sait aussi qu'il y a l'écoulement du temps qui est une quatrième dimension. Donc en fait, c'est à cause de ce nombre de dimensions, essentiellement, qu'il n'y a que deux statistiques. C'est absolument pas évident, c'est absolument pas intuitif, et il a fallu beaucoup d'années aux théoriciens à comprendre pourquoi c'est comme ça. Voilà. Mais en tout cas, une clé pour s'échapper de cette situation, c'est de diminuer le nombre de dimensions d'espace. Et si vous regardez une situation dans laquelle le mouvement n'est pas tridimensionnel mais bidimensionnel, autrement dit, votre particule, elle peut juste se déplacer dans un plan, mais elle ne peut pas sortir du plan, et bien là, justement, il y a un échappatoire à cette histoire de dichotomie boson-fermion, et vous pouvez faire autre chose. Et vous pouvez faire, en fait, toutes les situations intermédiaires entre les deux, et c'est ça qu'on appelle les anions. Voilà.
Ah, les anions. Et comme vous dites, en effet, les fermions qui ne peuvent pas occuper le même état quantique, ça c'est le principe d'exclusion de Pauli. Les bosons, eux, ne sont pas soumis à ce principe d'exclusion. Ils peuvent donc se regrouper. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi on arrive à créer des lasers. Alors ce modèle standard de particules n'est pas une théorie complète des interactions fondamentales. Il est mis en défaut par plusieurs observations, et notamment avec les quasi-particules. Restez avec nous.
Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Préden Rouleau et Thierry Jolicoeur, nous parlons de physique des particules, de paraparticules, de quasi-particules. De manière générale, la physique des particules considère qu'il n'existe que deux types de particules en mécanique quantique, les fermions et les bosons. Les anions sont une exception notable, mais ils existent uniquement en deux dimensions, c'est ce dont nous venons de parler. Alors, que trouve-t-on en dehors du monde des particules du modèle standard, Thierry Jolicoeur? On a notamment ces quasi-particules, hein, on peut voir quelle est la particularité de ces bestioles-là.
Eh bien écoutez, donc les quasi-particules, elles sont faites évidemment de particules dites élémentaires, des particules du modèle standard, puisque tout est fait de particules élémentaires. C'est juste que c'est les propriétés simples d'une grande assemblée. Alors, petite image simple, si vous regardez les propriétés de l'océan. Donc vous pouvez les regarder, et vous regardez une vague sur l'océan. Voilà, imaginez que vous allez faire du surf et vous vous demandez comment les vagues vont évoluer. Alors, il y aura une manière qui serait complètement délirante d'essayer de comprendre ce qui va se passer, ça serait d'imaginer le mouvement de chaque goutte d'eau dans la vague. Et ça, on comprend bien que ça serait extrêmement compliqué, et en plus, ça serait essentiellement complètement inutile. Puisque le surfeur, il a juste besoin de connaître la forme de la vague et comment elle va évoluer dans le temps. Et en fait, la vague elle-même, c'est un objet qui est bien défini, qui a une évolution temporelle donnée, que vous pouvez prévoir, même sans regarder le mouvement de toutes les gouttes d'eau. Et en fait, cette vague, c'est une excitation collective de l'eau, par opposition à une excitation élémentaire, dans laquelle vous taperiez avec une petite cuillère sur la surface de l'eau et vous feriez éjecter une goutte d'eau, par exemple. Ça serait une excitation élémentaire. Et cette goutte d'eau, elle pourrait être extrêmement petite, voire jusqu'à l'échelle moléculaire. Par contre, la vague, elle, bien que ça soit un mouvement de l'assemblée de l'eau, d'une quantité colossale de molécules d'eau, il n'empêche qu'elle a un mouvement qui est simple, prévisible, et qui obéit à des lois, macroscopiques, qui sont beaucoup plus simples. Alors, en principe, la terminologie réductionniste, je pourrais décrire les propriétés de cette vague au moyen des propriétés de toutes les molécules d'eau. Alors, on est persuadé que c'est vrai, mais en fait, c'est un énoncé qui ne porte pas à conséquence, parce qu'on ne peut pas le faire en pratique. Par contre, ce que vous pouvez faire en pratique, c'est étudier les propriétés de la vague et de dire quelle est sa vitesse en fonction de sa taille, de sa, ce qu'on appelle la longueur d'onde, et prédire les propriétés de sa vague. Donc une vague de matière, en fait, c'est ça qu'on appelle une quasi-particule. Si vous reprenez le monde des dispositifs électroniques, dans lequel eh ben, l'océan, essentiellement, c'est ce qu'on appelle la mer de Fermi en termes techniques, c'est l'ensemble des électrons qui sont dans votre solide, qui sont prêts à s'agiter pour conduire le courant électrique. Et plutôt que de regarder le mouvement individuel des électrons, eh bien, il peut y avoir des vagues qui se propagent, qui vont être très exactement ce qu'on appelle des quasi-particules du système électronique.
Voilà, que de même que les vagues sont une sorte d'excitation élémentaire de l'océan, les quasi-particules sont une excitation élémentaire de la matière. Et en effet, près d'Anne Rouleau, il y a cet exemple intéressant, celui de la mer de Fermi.
Oui. Alors, c'est là une excellente transition sur ce qu'on réalise dans notre équipe. Donc effectivement, vous pouvez vous poser la question de comment extraire un électron. Donc on imagine cette mer de Fermi, donc tous les électrons sont organisés sous une certaine énergie qui est l'énergie de Fermi. Expérience de pensée, vous souhaitez avoir un électron qui se propage au-dessus de cette mer de Fermi, que vous pourriez envoyer dans des circuits quantiques. Donc ça, c'est une question qui est très fondamentale du fait des interactions entre cet électron qui va en quelque sorte être au-dessus de cette mer de Fermi. Et comme cet électron va fortement interagir avec les autres, ça va générer énormément de perturbations. Et au passage, ça va générer, on parle de paire électron-trou. Voilà. Donc en vulgarisant, on pourrait parler de un petit peu de mousse à la surface de votre vague. Il y a une vingtaine d'années, donc il y a un théoricien qui s'appelle Levitov et son équipe qui a démontré que vous pouvez obtenir une quasi-particule qui a cette propriété de d'être un électron au-dessus de cette mer de Fermi. Donc quand on construit mathématiquement, cette quasi-particule qu'on a appelée Léviton, on a besoin de toutes les quasi-particules de la mer de Fermi. Donc c'est un état collectif, c'est exactement ce que vient de dire Thierry. Et cette quasi-particule a la propriété remarquable de se propager au-dessus de cette mer de Fermi et d'être un électron. Et lorsqu'il se propage sur cette mer de Fermi, il ne génère pas de perturbation. Il n'y a pas de paire électron-trou associée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a démontré avec Christian Gladky il y a une dizaine d'années. Donc c'est un exemple très concret de quasi-particules.
Ça, c'est des quasi-particules, Thierry Jolicoeur, qui ont des comportements donc proches de ceux des particules élémentaires du modèle standard. Il en existe une quinzaine, c'est ça ?
Le nombre de quasi-particules ? Vous me posez une colle.
Non, je voulais pas.
Exactement. Je ne saurais pas dire exactement. Je dirais qu'il y en a au moins une. Enfin, dans ces fameux états, les états Hall quantiques fractionnaires, chacun a une entité mystérieuse qui lui est attachée. Donc, je dirais qu'il y en a plutôt. Ouais, là, vous me prenez de quoi,
hein. Pas de problème.
On est d'accord. Je dirais qu'il y en a une bonne cinquantaine de connus.
En tout cas, pour comprendre ces phénomènes collectifs qui donnent naissance aux quasi-particules, quel est, Thierry Jolicoeur, l'important justement de la topologie, cet outil mathématique ?
Oui, alors, donc la topologie, en fait, son rôle, il est relativement simple quand on réfléchit à la différence entre le mouvement dans un plan d'une part versus le mouvement dans l'espace dont on parlait tout à l'heure. Le mouvement dans l'espace tridimensionnel, c'est ça qui fait que vous ne pouvez être que boson ou que fermion. Alors, si vous regardez le mouvement dans un plan, en fait, imaginez que vous posez quelque part une de ces fameuses quasi-particules et elle ne bouge plus. Donc, imaginons qu'on soit sur un parking. Là, par ma fenêtre, en ce moment, je vois un grand parking tout désert. Donc, vous avez une quasi-particule, mettons un poteau électrique au milieu de ce parking. Et vous promenez, vous êtes une autre quasi-particule, vous vous promenez autour de cette quasi-particule. Alors, tant que vous ne bougez pas de ce parking, il y a une notion très, très claire qui est que vous pouvez définir le nombre de tours que vous faites quand vous faites un chemin fermé. Donc, vous partez d'un point de départ. Vous faites un chemin, vous vous promenez et vous revenez à votre point de départ. Bah, ce chemin-là, il fait un certain nombre de tours autour du poteau qui est au milieu du parking. Ce nombre de tours, c'est un nombre entier. Vous pouvez même lui mettre un signe selon que le nombre de tours, vous le faites dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens opposé. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est bien défini, ce nombre de tours autour d'un point, à partir du mouvement du moment où le mouvement est plan. Et on voit bien que c'est ce qu'on appelle un nombre topologique, parce que ça ne dépend pas vraiment du détail du chemin que vous êtes en train de faire autour du poteau. Vous pouvez faire plein de petits diverticules autour du chemin. Le nombre de tours, ça reste plus 1 ou plus 2 ou moins 1 ou moins 2, mais pas 1,1 ou 1,2. C'est forcément un nombre entier. C'est le nombre de tours. Mais alors, par contre, ce qui se passe et qui est radicalement différent, c'est, imaginons maintenant qu'on autorise, alors donc on va le dire de manière théorique, on autorise le mouvement dans la troisième dimension. Donc là, je vous propose l'expérience de pensée suivante. La quasi-particule, on la met dans un ballon à air chaud, elle monte au-dessus du parking, elle se retrouve à une certaine altitude, et vous, pour vous promener autour de cette quasi-particule, vous êtes l'autre quasi-particule, vous êtes dans un petit avion. Et donc le petit avion, il part d'un point donné, il fait un circuit, il revient à son point de départ. Mais là, vous vous rendez bien compte qu'à partir du moment où vous avez l'espace entier devant vous, bah, il n'y a plus notion du nombre de tours. Ça n'est pas défini, le nombre de tours que vous allez faire autour du ballon. Parce que autour du ballon, vous pouvez passer par en dessous, vous pouvez passer par au-dessus, vous pouvez passer à 45 degrés, à moins 45 degrés, à 45 degrés plus 90 degrés. Il n'y a plus de notion de nombre de tours.
Oui, on comprend bien.
Là, c'est une différence qui est complètement, comme on dit, topologique. Elle dépend uniquement, non pas du chemin que vous faites, mais de la nature du chemin, plan versus dans l'espace.
C'est ça, Prédenor.
Donc ça, c'est un concept topologique.
Oui, on comprend qu'en passant dans un système physique à trois dimensions, les concepts topologiques amènent la statistique fractionnaire qu'on évoquait tout à l'heure.
Oui, alors, j'aime beaucoup l'exemple de Thierry. Donc c'est vrai que donc dans l'exemple de Thierry, dans la configuration où il est sur son parking avec le poteau, on est dans un système bidimensionnel, deux dimensions. Et donc c'est pour ça que jusqu'à assez récemment, on pensait que ces propriétés de statistiques fractionnaires ne pouvaient avoir lieu que à deux dimensions. Expérimentalement, en gros, on réalisait ces expériences dans des systèmes à deux dimensions. Donc, c'est typiquement des gaz bidimensionnels d'électrons, donc ils sont vraiment dans un plan. Donc, vous avez un plan d'électrons ou dans le graphène qui est également un système à deux dimensions. Et là, on se retrouve exactement dans la configuration dont parlait Thierry, c'est-à-dire vous êtes dans un système 2D, donc c'est votre parking. Et vous faites des tours. Alors après, peut-être qu'on pourra en discuter un petit peu concrètement ce qu'on fait vraiment dans nos laboratoires, mais vous faites des tours de poteaux et ça, on peut avoir des informations sur cette phase qui va être accumulée.
Thierry Jolicoeur, maintenant nos paraparticules, d'où vient cette idée qui a donc été formulée dans les années 50 ?
Oui, alors ça, donc c'est une idée qui vient de la physique des particules élémentaires, qui vient de l'idée justement c'est basé sur le modèle des quarks, en fait. Quand vous voulez, si vous voulez vous faire une idée de la structure interne du neutron ou du proton, la physique des particules, elle a des indications qu'il y a ces fameux quarks à l'intérieur. Et il y en a trois à l'intérieur du neutron, il y en a trois à l'intérieur du proton. C'est pas les mêmes. Enfin, en tout cas, il y en a deux espèces, mais il y en a deux d'une sorte et un de l'autre sorte. Et ça fait un proton et un neutron. Alors, si maintenant vous essayez de concrétiser un peu cette idée avec le fameux principe de Pauli, vous êtes contraint par la fameuse histoire que vous ne pouvez pas mettre plus d'un quark par état quantique, si on croit qu'il y a trois quarks dans le proton. Et je passe les détails, ça ne marche pas. On n'arrive pas à construire en mécanique quantique, l'état d'un proton ou d'un neutron avec simplement la statistique de Fermi et ces deux types de quarks. Je dis bien « et ces deux types de quarks ». Alors, en fait, il y a eu une bifurcation historique. Donc, la première idée a été de dire « ah, mais non, mais ces histoires de statistiques Fermi versus Bose, c'est pas vrai, il se passe un truc nouveau, c'est les paraparticules. Et les paraparticules, justement, elles ont le droit de faire ce qui est en principe interdit, et d'être 2, voire 3, voire 4, voire 5 par état quantique. Et c'est quelque chose qui est intermédiaire entre fermions et bosons. » Alors ça, c'est donc une idée qui a été agitée par un certain nombre de physiciens dans les années 50 et 60. Il y avait un physicien français parmi eux qui s'appelle Albert Messiaen, qui a été un grand promoteur de la mécanique quantique en France dans l'immédiat après-guerre. J'ai découvert, en regardant un petit peu les sujets que vous proposiez dans votre émission, le fait que Albert Messiaen a travaillé sur ces histoires de parastatistiques, qui est quelque chose qui est probablement pas très bien connu, même des physiciens des particules eux-mêmes, en tout cas de mes collègues. Mais alors, en fait, c'est une idée qui rencontre tout de suite des difficultés insurmontables dans le domaine des particules élémentaires, et c'est pour ça qu'elle a été abandonnée. Et alors, quelle est l'idée qui a triomphé? Et alors, l'idée qui a triomphé est de dire que, en fait, ah, mais là où je croyais qu'il n'y avait que deux types de quarks, en fait, non, il y en a plus de types. Il y a une différence entre les quarks que je n'avais pas vu avant, qui fait que, eh bien, grâce à cette différence, je peux en mettre plus d'un par état quantique, simplement parce que l'état, il est aussi défini par cette autre caractéristique. Alors, pour résumer cette caractéristique et faire un bon mot que tout le monde peut répéter sans que ça ait un sens très très clair, on a appelé ça la couleur. C'est l'introduction du concept de couleur des quarks, qui a été en fait extrêmement fructueuse parce que, donc, elle a permis d'abord de s'évader du principe de Pauli, en permettant d'avoir une description en termes de mécanique quantique des neutrons et protons. Et puis ensuite, dans les années 70, eh bien en fait, cette histoire de couleur, ça a été la base de la description des forces entre les quarks. Et ça, c'est très très fort, parce qu'il n'y a pas eu besoin d'ingrédients supplémentaires. La couleur des quarks, l'échappatoire au principe de Pauli, eh bien, paf, c'est l'ingrédient qui a permis de fabriquer la théorie des interactions fortes, comme on appelle, entre quarks, qu'on appelle la chromodynamique quantique. Chromo, pour du grec couleur, justement, qui est ce degré de liberté supplémentaire que possèdent les quarks et qui leur permet d'échapper au principe de Pauli.
Et Prédène Rouleau, en plus, dans les années 70, on a le fameux théorème de Dopplischer-Agrobert, le théorème DHR pour les intimes.
Oui, alors, c'est vrai que un des concepts forts de la statistique de ces particules, c'est que donc ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est la notion d'échange. Donc, lorsque vous échangez deux bosons, il se passe rien. Lorsque vous échangez deux fermions, vous prenez votre fonction d'onde, enfin la fonction qui va décrire cet objet-là va prendre un signe moins. Et donc la question c'était, est-ce qu'on peut récupérer une phase intermédiaire? C'est là qu'a été introduite la notion d'anion, de anion, ça veut dire une phase en quelque sorte intermédiaire entre 0 et pi. Dans les années 70, ce qui était compris, c'est que cette phase... c'est exactement le même exemple qu'a pris Thierry, qui marche très bien à deux dimensions. C'est-à-dire que lorsque vous faites à deux dimensions ce tour autour du poteau, finalement, une fois que vous avez fait un tour, vous ne pouvez pas retirer la corde, c'est impossible, vous êtes restreint sur un système à deux dimensions. Vous récupérez cette phase, et si cette phase, c'est une phase intermédiaire entre 0 et pi, ça va avoir des conséquences dans vos mesures. Donc c'est pour ça que jusqu'à récemment, on pensait qu'expérimentalement, il n'y avait que dans les systèmes à deux dimensions qu'on pouvait avoir des informations sur cette phase-là. À trois dimensions, donc, comme le disait Thierry, on a la possibilité de s'élever et de retirer la corde parce qu'on peut passer au-dessus de ce poteau. Donc ça, c'est une propriété topologique. Donc à trois dimensions, on n'accumule plus cette phase. On peut se ramener au point initial sans avoir à récupérer cette phase. C'est aussi pour ça qu'a priori, il n'y aurait pas de marqueurs expérimentaux à trois dimensions, jusqu'à que... Bon, donc ça, c'est un débat théorique, parce que pour l'instant, ce sont des démonstrations mathématiques, mais en 2025, effectivement, il y a eu ce papier dans Nature qui a montré qu'on pouvait avoir cette statistique intermédiaire aussi à trois dimensions.
Mais justement, pourquoi cette hypothèse qui a donc été abandonnée historiquement revient-elle sur le devant de la scène? Restez avec nous.
Dans mes bras, viens, tu t'écroules. fragile. Tu te planques, fais l'amour. Un, 200 à l'heure. Tu disperses mon amour. Molécule fragile qui réchauffe. Là, c'est rouge sur nos joues. Particule de scandale. Dans mes bras, viens, tu t'écroules. Molécule fragile. Tu te planques, fais l'amour. Pas de sang à l'heure. Tu disperses, oh mon amour. Molécule si fragile. Là, c'est rouge.
Damnée particules en direct sur France Culture, car nous parlons de paraparticules, ces quasi-particules particulières et hypothétiques. On en parle avec nos deux invités du jour, Preden Rouleau, directeur de recherche au CEA, directeur du groupe de nanoélectronique au service de physique de l'état condensé au CEA Saclay, et Thierry Jolicoeur, chercheur CNRS en physique théorique de la matière condensée, membre de l'Institut de physique théorique CEA CNRS. On vient d'évoquer cette étude parue dans Nature en janvier dernier. On a dit qu'aucune preuve expérimentale directe n'a été faite de l'existence des paraparticules, mais cette étude démontre théoriquement la possibilité d'un nouveau type de quasi-particules dans des systèmes de matière condensée. Preden Rouleau, alors dans ce papier, les paraparticules émergent comme des excitations de quasi-particules, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc, en gros, jusqu'à présent, mais bon, je sais que Thierry aura des choses à dire là-dessus parce que c'est quand même un débat qui a lieu depuis maintenant quelques années. Mais en gros, en 2025, dans ce papier, une hypothèse assez forte que l'on pouvait observer dans des systèmes à trois dimensions, cette statistique. Donc intermédiaire, qui serait pas zéro EPIM ou une statistique fractionnaire, donc qui ouvrirait de nouvelles possibilités d'application expérimentale, même si dans le papier, bon, j'ai regardé, il n'y a pas vraiment de proposition d'expérience. Pour l'instant, on reste quand même très très en amont.
C'est très 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 théorique comme
c'est
papier, en effet. Thierry Jolicoeur, en effet, on a un cadre théorique donc dans lequel les paraparticules peuvent potentiellement exister en trois dimensions et elles ont des comportements différents des fermions et des bosons.
Oui, alors ça c'est vrai. C'est pas une idée qui est nouvelle. Hein. Là, je proteste un peu vis-à-vis du sensationnalisme de la revue Nature, mais y a au moins un groupe de gens que je connais qui ont publié essentiellement le même genre d'argument en 2011. Donc, l'idée de parastatistique pour des objets étendus, elle est pas complètement nouvelle. Hein. Alors, indépendamment d'une polémique sur l'origine de ces résultats, il est quand même intéressant de comprendre que si vous voulez introduire une notion nouvelle, il faut arriver à échapper aux arguments précédents qui vous empêchaient d'avoir cette situation. Alors, tout à l'heure, je vous ai vendu l'histoire du nombre de tours qui se passe dans un plan, et dans l'espace, c'est pas la même chose puisqu'il n'y a pas de notion de nombre de tours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à casser cette notion de statistique boson-fermion en trois dimensions, donc quand vous n'êtes pas contraint dans un plan, quel est l'argument qu'on va être obligé d'abandonner ? Eh bien, en fait, l'argument qu'on est obligé d'abandonner, dont je me suis bien gardé de le préciser quand je vous ai décrit cette image, c'est l'idée que les particules, elles sont ponctuelles. Là, on n'a pas parlé de dimension. Je vous ai parlé d'un poteau au milieu d'un parking. Moi, je fais des tours autour du poteau, mais en gros, je suis élémentaire. Ma taille ne compte pas dans l'argument. Pareil pour le ballon avec l'avion qui tourne autour. Il n'est pas question de taille. On ne va pas percuter le ballon. Il n'est pas fait mention de taille. Alors, l'échappatoire, c'est de dire que « Ah, mais peut-être qu'il y a des quasi-particules qui ne sont pas bien représentées par des objets ponctuels, mais par des objets qui ont une extension du genre ruban. Si vous avez un ruban qui va d'une quasi-particule à l'autre, alors la notion de permutation d'échange de ces particules, elle est plus compliquée. Alors, petit exemple simple, imaginez que vous jouez au jeu du bonneteau. Alors, le jeu du bonneteau, vous échangez des particules qui sont sous un petit bol et vous ne voyez pas cette quasi-particule. Et vous pouvez faire des opérations d'échange. Ça, c'est la mécanique quantique ordinaire. C'est avec celle-là que, des fois, vous avez un plus 1 si c'est des bosons que vous avez cachés sous vos bols, ou des fois, c'est un moins 1 si c'est des fermions que vous avez cachés. Et ça, c'est OK quand c'est des particules ponctuelles. Mais le jeu de bonneteau, imaginez qu'au-dessus... Mettons, j'ai trois tasses, d'accord ? Et puis, j'ai un petit portique en hauteur et je relie par un petit ruban élastique chaque tasse au portique au-dessus et c'est attaché. Bah, là, maintenant, quand je vais permuter les petits bols du jour du bonneteau, ah, il va y avoir, je vais me mettre à fabriquer des tresses. Et vous voyez que du coup, le problème de permutation des particules, bah, il devient beaucoup plus compliqué. Et il devient beaucoup plus compliqué que simplement un signe. Oui. Et en fait, c'est ça l'idée qu'il faut abandonner, c'est l'idée de particules ponctuelles. Elles restent des excitations collectives, mais on ne peut plus les considérer comme ponctuelles. Il y a une ficelle d'attaché.
On comprend en tout cas, Thierry Jolicoeur, qu'avec justement cet usage des objets mathématiques comme des rubans dans cette étude, on comprend que vous restez sceptique. Alors dans la petite famille des quasi-particules, les anions, prédits dans les années 70, font l'objet d'expériences où on observe leur comportement à mi-chemin entre bosons et fermions. On continue d'en parler avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha.
Pour le reportage du jour, vous êtes allée au laboratoire de physique de l'ENS de Paris pour découvrir des dispositifs où on étudie ces particules aux propriétés exotiques.
Oui, alors dans son expérience, Gwendal Fèvre utilise des puces électroniques placées dans un collisionneur pour faire télescoper des anions, un procédé qui permet d'observer leur propension à s'agréger et condenser plutôt que de s'exclure, contrairement aux électrons dont ils sont issus. Et quand des anions s'échangent leur position, ils dérivent sur une boucle formant des sortes de tresses, un enroulement qui confère une mémoire incassable, un atout majeur recherché pour le calcul quantique.
Alors là, on est devant une machine qui va servir à connecter la puce à un circuit imprimé, en fait. Donc là, on peut la voir à l'œil nu. Et donc la puce vient se loger à l'intérieur. Et après, il y a des fils. Donc là, on voit une espèce d'aiguille. C'est un peu comme une machine à tricoter pour des conducteurs quantiques. Donc il y a une aiguille au centre dans lequel il y a un fil d'or qui passe, qui fait un diamètre d'une vingtaine de microns. En fait, ça, c'est ce qu'on voit bien à l'optique. Il faut avoir conscience que la partie active de la puce, celle où vraiment... les opérations de tressage vont intervenir et va y avoir des effets d'interférence quantique qu'on va étudier. C'est la partie centrale qui va plutôt faire de l'ordre du micron comme taille caractéristique. Et ça, c'est impossible à voir en optique. Donc on utilise des microscopes électroniques pour voir ça. Et donc on peut en fait, en faisant ça, changer la géométrie de l'échantillon et rapprocher les bords de l'échantillon l'un de l'autre. Et en faisant ça, on va autoriser des particules à être transférées par effet tunnel d'un bord à l'autre de l'échantillon. Et ça, c'est l'outil essentiel qu'on utilise dans nos expériences. C'est coupler par effet tunnel deux bords de l'échantillon. Et en fait, les particules qui vont être échangées entre les deux bords, ce sont les anions, quand on est dans ce régime d'effet Hall fractionnaire dans lesquels les interactions sont très fortes. Donc on peut ainsi, de manière contrôlée, échanger un anion entre les différents bords. Et on peut ainsi faire circuler des courants d'anions contrôlés. Et disons, c'est comme ça qu'on étudie le tressage d'anions dans ces conducteurs. Maintenant, en quoi est-elle exotique ? C'est que cette quasi-particule, elle va avoir des propriétés extrêmement différentes des électrons de départ. Alors extrêmement différentes, ça va rester une particule chargée, comme les électrons. Mais dans les systèmes qu'on étudie, donc là, pour prendre le mot technique, on parle d'effets Hall quantiques fractionnaires, lorsque les effets d'interaction sont très forts. Et donc ces excitations élémentaires, là, celles qu'on étudie spécifiquement, elles ont une charge qui est un tiers de la charge de l'électron. Donc ça, c'est exotique. C'est qu'on a réussi à fabriquer un objet qui est une fraction de l'objet élémentaire dont on est parti. Et ensuite, il a une statistique. Donc il appartient à une famille qui n'est ni la famille des bosons, ni la famille des fermions. Et donc c'est là où intervient cette notion d'anion, qui vient de l'anglais, anion. Parce que n'importe quelle propriété entre les fermions et les bosons. Donc la manière mathématique de décrire ça, c'est ce qu'on appelle la phase d'échange. Alors, cet état a plein de particules, plein d'électrons. Il est décrit en général par ce qu'on appelle une fonction d'onde en mécanique quantique. Et la fonction d'onde, elle permet de décrire... Donc maintenant, les positions des particules ne sont pas exactement définies. Il y a une probabilité d'observer les particules à différents endroits. L'objet fonction d'onde, c'est un objet complexe qui est codé par son module et sa phase. Donc en fait, ce qu'on comprend là, c'est une vision un peu plus générale de ce que sont les fermions et les bosons, ce sont des particules qui, quand je fais un tour complet d'une particule autour de l'autre, je ne change rien. Et là, c'est vrai et pour les bosons et pour les fermions, puisque zéro, enfin, ok, une phase de 0 fois 2, c'est toujours 0, mais une phase de pi fois 2, c'est 2 pi, qui est aussi 0. Alors là, les anions, la propriété des anions, c'est à partir du moment où cette phase d'échange devient maintenant différente, de 0 ou de pi, alors, dans l'exemple, c'est pi sur 3, eh bien, quand je fais un tour complet, je vais accumuler une phase 2 pi sur 3, et 2 pi sur 3, c'est différent de 0 ou de 2 pi. Et donc maintenant, on a un effet de mémoire de ces effets de rotation des particules les unes autour des autres. En fait, on appelle ça du tressage de particules.
On imagine comme un fil, alors.
Alors, exactement. Alors, comment est-ce qu'on imagine comme un fil? Donc, on est à deux dimensions. Maintenant, le temps...
La verticale.
Voilà. Le temps va être l'axe vertical. Et donc, si je déplace lentement une particule autour de l'autre, bah, en fait, je suis en train de faire une tresse. Donc, il faut imaginer que la particule qui ne bouge pas, c'est un fil parfaitement rectiligne selon l'axe OZ. Et par contre, je fais un autre brin qui s'enroule autour de la première. Donc, on fait des tresses d'anions. Et donc, il y a deux choses qui sont très motivantes quand on étudie ces objets-là. La première, c'est... On pensait que le monde se divisait en deux catégories. Et en fait, le monde est plus riche que ça. Il y a autre chose que les fermions et les bosons. Et ces nouveaux objets, ils ont des propriétés qui sont complètement différentes. Notamment... cette propriété d'encoder des messages ou d'encoder de l'information en faisant ce tressage.
Et pour l'information quantique, la mémoire quantique, donc, le calcul quantique, c'est intéressant.
Donc c'est ça qui motive beaucoup les gens. Parce qu'en fait, si on reprend l'image de la tresse, une tresse, c'est un objet qui est très stable aux déformations. Donc si on attache, donc voilà, la tresse, elle est attachée au crâne d'un côté. En général, on met un nœud de l'autre côté pour attacher les cheveux. Et donc si on fixe les positions des deux extrémités de la tresse, je peux la secouer autant que je veux, le nombre d'enroulements des cheveux les uns autour des autres sera stable via ces opérations où je secoue la tresse.
C'est conservé, en fait.
Exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle des propriétés topologiques. Donc ça rentre dans tout le domaine de la physique topologique qui intéresse beaucoup les gens actuellement. Donc ces topologiques, qu'est-ce que ça veut dire dans ce sens-là? Ça veut dire que je peux déplacer les brins de cheveux autant que je veux. Je peux faire des déformations continues de la tresse en déplaçant les brins de cheveux. Ça ne changera jamais ce nombre qui est le nombre d'enroulements contenus dans la tresse. Et donc ce nombre est une quantité conservée et robuste à toutes ces déformations locales. Et donc là, les gens ont montré qu'on pouvait faire un processeur quantique basé sur le tressage de ces anions d'un abeille. Alors, on en est encore loin dans les expériences qu'on fait ici.
Donc, c'est parfait. Et donc là, on est devant une grande structure qui a l'air d'être fraîchement inaugurée.
Exactement. Donc là, on est très heureux d'avoir reçu ce superbe appareil il y a deux semaines. Et donc, on commence à équiper pour faire des expériences de tressage d'anions. Donc, c'est un objet qui fait environ 1,50 m de haut ici et qui est séparé entre des plaques qui sont des plaques de cuir mais qui ont été dorées pour éviter que le système s'oxyde. Donc il y a une couche d'or par-dessus ces plaques de cuivre. Et donc à chacune de ces plaques va correspondre une température de plus en plus basse, partant de la température ambiante, donc de l'ordre de 300 Kelvin. Ensuite, il y a une plaque qui va être à 70 Kelvin, la plaque suivante à 4 Kelvin, la plaque suivante à 1 Kelvin, ensuite 100 millikelvin et 5 millikelvin. Donc là, la plaque ici est la plus froide. Et en fait, un petit peu là, pour le coup, comme dans un frigo standard, c'est un fluide frigorifique qui va circuler dans le frigo, qui va permettre de refroidir le système. Mais par contre, le fluide frigorifique est très différent de ce qui existe dans les frigos standards. Ici, c'est un mélange dans les bonnes proportions de deux isotopes de l'hélium, l'hélium-3 et l'hélium-4, donc ils vont différer par le nombre de neutrons qui sont présents dans le noyau d'hélium.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur votre appli préférée. Prédane Rouleau, les anions, vous les étudiez depuis votre thèse.
Oui, alors effectivement, donc il y a deux manières d'extraire ce terme d'échange. La première manière, c'est celle qui a été développée donc par plusieurs équipes, dont celle de Gwendal, où on fait collisionner des anions. Donc l'idée, c'est de préparer en amont une source d'anions que vous allez faire collisionner. Et la collision, lorsque vous allez mesurer, par exemple, les fluctuations du courant, vous allez être sensible à cette phase. Il y a une autre branche qui est l'interférométrie. Donc l'interférométrie, ça rejoint aussi un petit peu l'image de Thierry, c'est-à-dire que vous avez un électron qui va... en gros, faire des tours. Et de temps en temps, lorsqu'un anion va rentrer dans cet interféromètre, ça va générer un saut de phase. Donc ça, c'est quelque chose, c'est des expériences qui ont été réalisées sur différents types de surfaces. Donc l'arsenium de gallium, qui est un semi-conducteur conventionnel, aussi le graphène, dans différents types d'échantillons. Donc ces sauts de phase sont directement liés à cette phase topologique, en l'occurrence 2π sur 3. Vraiment, c'est les deux manières d'extraire, et puis on peut aussi réaliser des expériences de collision dans des interféromètres qui apportent des informations supplémentaires. Donc j'aimerais aussi revenir un petit peu sur toutes les conditions expérimentales pour observer ces anions, parce qu'en fait ces anions sont des quasi-particules très fragiles qui sont sensibles à ce qu'on appelle la décohérence quantique. Donc en gros, lorsque ces anions sont dans un environnement avec des fluctuations, donc ça peut être des fluctuations de température par exemple, des photons, cet état, cette quasi-particule peut se détruire ou perdre la mémoire, cette mémoire de la phase, c'est-à-dire que lorsqu'elle va faire des tours, lorsque l'on tresse, il y a cette propriété topologique qui est très forte, mais si vous agitez trop fort, vous pouvez perdre un petit peu cette phase. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de mettre ces échantillons à très basse température et de les protéger avec tous ces écrans en cuivre qui sont en quelque sorte des écrans contre les perturbations électromagnétiques de la salle du laboratoire.
C'est une des raisons pour lesquelles l'étude des anions, de l'effet Hall quantique anti-Hall fractionnaire et de manière générale l'étude des quasi-particules est si difficile, Thierry Jolicoeur ?
Oui, bah écoutez, Brennen vient de bien le décrire, c'est que ces quasi-particules, elles arrivent dans des états qui sont très fragiles. Il faut des échantillons qui soient très purs, qui aient très peu de désordre structurel, et puis il faut descendre à des très basses températures pour arriver à avoir les manifestations des quasi-particules. Oui, voilà.
Brennen Rouleau, quelles sont les perspectives ouvertes par l'observation de quasi-particules comme les anions ?
Donc, il y a un certain nombre de... Alors, il y a deux manières d'aborder les choses. Soit la partie fondamentale, c'est-à-dire comprendre un peu mieux comment ces anions se comportent, en savoir un peu plus sur leurs propriétés fondamentales. Et ensuite, il y a des applications un peu plus technologiques qui ont été abordées par Gwendal, où, effectivement, lorsque l'on tresse des anions, en quelque sorte, quoi qu'il arrive par la suite, vous allez garder cette mémoire de phase. Et vous pouvez encoder de l'information dans cette phase. Donc c'est vraiment l'intérêt de la protection topologique, c'est-à-dire que vous allez encoder l'information dans cette phase, et quoi qu'il arrive, l'électron va ensuite avoir un chemin électronique quelconque, et même s'il y a des perturbations, il ne va pas perdre cette mémoire de phase. Donc c'est une des propriétés qui pourrait être intéressante pour le calcul quantique, c'est-à-dire que lorsque ces anions vont se propager, vous allez pouvoir manipuler au vol l'état quantique, et donc faire des calculs quantiques, la manipulation quantique au vol.
Oui, alors, en attendant vraiment le mot de la fin, l'écosystème quantique est bien développé en France, mais aucune société ne s'appuie sur ses caractéristiques de paraparticules, comme les anions. Donc ça, c'est justement par rapport aux difficultés expérimentales qu'on vient de décrire.
Oui, il y a très peu de groupes qui savent faire ces expériences. On est vraiment, je pense, encore en amont. Donc cette thématique qui s'appelle la thématique des flying qubits, actuellement connaît un essor qui est assez conséquent, et j'espère que ça va amener vers des applications technologique.
Eh bien, merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on écoute Alexandra Delbo, mais j'en profite pour faire une petite annonce. La période des révisions est bien entamée pour les futurs bacheliers. Alors, Radio France propose une offre de podcast, Réviser le bac, avec plus de 800 podcasts pour accompagner les révisions, français, philo, histoire géo, sciences de la vie et de la Terre, bien sûr. C'est à retrouver sur le site radiofrance.fr. On quitte la physique quantique et le modèle standard des particules et on se met en route vers son potager et ses petits pois, c'est la chronique avec science.
Que cachaient encore les petits pois de Mendel ? Grégor Mendel est un moine austro-hongrois du 19e siècle, mais également un scientifique accompli dans de nombreux domaines, en maths, en physique et surtout en botanique, c'est pour ça qu'on le connaît. Ses travaux sur les plantes ont révolutionné la génétique. Il y a presque 160 ans, il découvre les principes de l'hérédité dans le jardin du monastère grâce à un modèle idéal, Pisum sativum, autrement dit les petits pois. Judith Burstin est généticienne et directrice de recherche à INRAE, dans l'unité agroécologie de Dijon. Elle a participé au séquençage du génome du petit pois en 2019.
Mendel, dans son article de 1866, cite les raisons pour lesquelles il a choisi le pois pour ses expériences. Donc, premièrement, les variétés de pois qu'il a sous la main possèdent des caractéristiques phénotypiques contrastées qu'il est capable d'observer. Chez le pois, l'hybridation est facile à faire et elle peut être facilement donc contrôlée. Et puis la troisième caractéristique qu'il décrit dans son article, c'est que les caractères sont fixes grâce au système de reproduction du pois, qui est un système de reproduction autogame. Mendel a élaboré les lois de la génétique à partir de l'observation des descendances de croisements de variétés de pois qui différaient pour 7 caractères. Ce sont la forme des graines, la couleur des cotylédons, donc soit des graines vertes, soit des graines jaunes, la taille des plantes, la couleur des fleurs, donc soit rose, rose-violette, soit blanche, la couleur des gousses, la structure des gousses, et septième caractère qu'il a observé, c'est le type d'inflorescence.
Mendel élabore sa théorie de manière empirique. Il observe génération après génération les nouveaux plans de pois. Certains caractères dominent et perdurent, d'autres disparaissent un temps, puis réapparaissent ensuite. Il en tire ainsi 3 lois qui régissent encore à l'heure actuelle les transmissions héréditaires de caractères. Mais l'explication de ce phénomène viendra plus tard avec la découverte des chromosomes et des gènes. Chacun des traits est déterminé par un gène qui peut exister sous plusieurs versions. Ce sont des allèles. Selon la version du gène qui est donné à la descendance et de son caractère récessif ou dominant, un caractère va s'exprimer, c'est le phénotype. Les fleurs sont blanches ou elles sont roses. Grâce au séquençage de l'ADN, les gènes responsables de 4 des caractères étudiés par Mendel ont déjà été découverts, et 4 sur 7, il en manquait donc 3. Une nouvelle étude parue dans Nature a analysé le génome de presque 700 lignées de pois de tout type, sauvages ou cultivés, et parmi les cultivés, pois fourragés, pois pour consommation en sec, et bien sûr les petits pois, tous proviennent de la collection de graines du centre John Innes à Northwich. L'enjeu de ces expériences est d'associer le phénotype, donc une caractéristique observable, à une région du génome. Un travail de longue haleine qui a permis d'identifier les 3 gènes responsables des 3 derniers caractères, la forme de la cosse, sa couleur et l'emplacement des fleurs sur la tige. Cela répond à une énigme de plus d'un siècle et demi, mais pas seulement.
Ce que je trouve très intéressant dans l'ensemble des gènes qui ont été identifiés, qui contrôlent les caractères de Mendel, c'est la diversité des mécanismes moléculaires qui sont sous-jacents justement à ces variations. Mais ce qu'il y a derrière cette étude, c'est aussi la compréhension et l'identification de régions du génome qui jouent un rôle dans la variation de caractères d'intérêt. Donc il y a ces 3 caractères dont on parle. Mais il y a aussi 72 autres caractères potentiellement intéressants au niveau agronomique qui ont été caractérisés par les chercheurs de cette étude, à la fois donc en Chine et au Royaume-Uni. Et donc, c'est une ressource très précieuse pour la génétique du pois, là, ce qui a été publié, puisqu'on va pouvoir s'appuyer sur ce qui a été trouvé dans cette étude pour nous aller vérifier la fonction de tel ou tel gène qui pourrait nous intéresser, parce que le caractère qu'ils ont analysé nous intéresse pour nos études.
Les caractères qui intéressent la communauté scientifique, ce sont par exemple la capacité des plants à résister aux agresseurs de toutes sortes, la qualité nutritionnelle des graines ou encore l'adaptation au changement climatique. Les travaux sur la génétique de Pisum sativum sont donc loin d'être terminés et cette étude est un tremplin pour d'autres analyses sur le pois mais aussi sur d'autres espèces végétales.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Lou Anger, Alexandre Morales, Loïc Dutoit à la réalisation, Hélène Trigueros à la technique aujourd'hui, Élise Le. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.